Et même s'il est livré lui-même pour faire des choses mauvaises, qui méritent la mort, il persévère consciemment dans sa voie. Et la colère de Dieu envers cet homme est juste. Elle est parfaitement juste. On a vu pour autant qu'il y avait quand même une porte de sortie, puisque c'est Dieu qui livrait les hommes à leur passion. Et certes, quand ils prennent conscience de leur état, et quand ils veulent se sortir de leur situation, quand ils veulent retrouver la crainte de Dieu et s'éloigner du mal, le chemin de la repentance est là pour être délivré. Maintenant, nous allons voir la suite de l'argumentation de Paul. On va lire les cinq premiers versets du chapitre 2, que je vais lire dans la Nouvelle Bible Second. Vous pouvez suivre dans vos versions. Verset 1. Tu es donc inexcusable, toi qui juges, qui que tu sois. En jugeant l'autre, en effet, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui pratiquent de telles choses est conforme à la vérité. Comptes-tu donc, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fait toi-même, comptes-tu donc échapper au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance, de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Alors, c'est clair dans notre passage. Celui qui juge autrui se condamne lui-même. Quel est le groupe de personnes auquel s'adresse l'apôtre ici? Un groupe visiblement différent du précédent. Un groupe qui a une bonne moralité. Il sait que Dieu est le Créateur, le seul digne d'adoration et de louange. Il sait que le comportement des impies est condamnable. Il a une bonne gestion, une bonne moralité de cela. Mais voilà, cette bonne moralité l'amène visiblement à juger. D'où peut venir chez nous le désir de juger les autres? Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi il vient si souvent à notre pensée le désir ou le jugement? Pourquoi nous produisons des jugements? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je pense que peut-être quand on voit qu'on agit mieux que les autres, qu'on, selon nos critères, selon nos yeux, on est mieux, on a tendance à s'élever au-dessus des autres. On se voit plus haut, on se voit meilleur et on se donne le droit de juger. C'est peut-être ça. Peut-être il y a d'autres raisons. En tout cas, l'apôtre est clair, nous pratiquons ce que nous condamnons. Nous pratiquons ce que nous condamnons. Jésus a instruit clairement les disciples là-dessus, dans Matthieu, sur le verset sur la montagne, Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin de ne pas être jugé. Car on vous jugera du jugement que vous jugez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez les autres. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Et pourquoi n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le mot est lâché, hypocrite. Ce qui est remarquable, c'est que la paille et la poutre sont de même nature. Il y en a un qui c'est un tout petit bois et l'autre c'est un énorme bois. Mais c'est la même chose. Et on voit chez les autres les péchés que nous connaissons. On ne peut pas voir les péchés que l'on ne connaît pas. On ne peut pas voir chez les autres les problèmes que l'on n'a pas expérimentés soi-même. Et c'est pour ça que nous pratiquons dans les faits ce que nous condamnons. Alors quelle forme cela peut prendre si on revient sur notre texte de la semaine dernière, par exemple. J'ai pris deux exemples, vous pourrez en trouver d'autres. En Romains chapitre 1, vous savez, Dieu les a livrés à des passions infâmes, leurs femmes ont changé l'usage naturel, etc. Et qu'est-ce que... C'est vrai qu'il est facile de condamner l'homosexualité, de se placer en juge de ces personnes-là. Mais si à côté de cela, on regarde de la pornographie, si à côté de cela, on pratique de la masturbation, quel est le regard de Dieu? Il est question aussi de l'ingéniosité au mal. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Je pense qu'il est assez facile d'être ingénieux au mal. Par exemple, quand on roule sur la route, on voit qu'il y a un radar, vite, on ralentit. On sait qu'il y a le radar là, on lève le pied. Et puis quand le radar est passé, on réaccélère de nouveau. On enfreint le code de la route. On le fait volontairement, on est ingénieux au mal. Arriver à faire le mal sans se faire prendre et réfléchir à cela. Ou bien au niveau de nos impôts ou de toute autre chose. Alors on peut facilement, si nous examinons les choses de près, comme dit la parole de Dieu, en fait, être soi-même coupable des transgressions que nous dénonçons chez les autres. Dieu nous appelle avec amour à nous repentir. Il y a quelque chose de positif quand même chez ce groupe de personnes qui ont une bonne moralité. Ils ne sont pas dans la même situation que les impies. Les impies, Dieu les a livrés à leur passion. Mais ici, avec amour, douceur et patience, Dieu appelle les personnes de bonne moralité qui jugent les autres. Elle les appelle à se repentir, ceux qui se croient plus justes que les autres. Ce n'est pas une bonne chose que de nous comparer les uns les autres. J'ai deux illustrations. À la maison, on a une cheminée et j'ai refait la haute cet automne et j'ai passé du bel enduit blanc. Et quand j'ai vu ce bel enduit blanc, j'ai regardé le plafond. Et je me suis dit, oh là là, moi qui croyais que le plafond était blanc, en fait, il est devenu tout jaune à cause de la suie. Ou bien, est-ce que vous avez déjà fait le grand ménage chez vous? On commence par faire le ménage des choses qui nous ont toujours sauté aux yeux. On se dit, ah, il faut que vraiment que je nettoie ça. Et puis, on commence à nettoyer. Et puis, ah, c'est propre. Et puis, on regarde à côté, oh là, et ça aussi. Et puis après, ça, et ça, et ça. Et le ménage, en fait, n'en finit pas tellement. Il y a de choses, quand on commence à mettre un endroit propre, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a d'autres côtés à côté qui sont dans un état déplorable aussi. Alors, ne nous comparons pas les uns aux autres. Comparons-nous à Jésus-Christ. et l'humilité chassera l'orgueil. Au lieu d'examiner les autres, laissons-nous examiner par le Saint-Esprit. Dieu nous appelle avec amour à nous repentir de l'esprit de jugement. Les versets suivants. Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans une bonne œuvre, cherchent la gloire, l'honneur et l'impérissable. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Car il n'y a pas de partialité, de favoritisme chez Dieu. Au jour de sa colère, Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Alors le jour de la colère de Dieu arrivera suite à un débordement d'injustice et de mal de la part des hommes. Il y a plusieurs endroits dans la Bible où l'on observe cela. Peut-être il vous revient des passages. On pense facilement aux gens de Sodome et Gomorre, combien ils étaient mauvais et combien la colère de Dieu est tombée sur eux. Ou bien au temps de Noé, les pensées d'alors des gens se portaient continuellement vers le mal. On peut penser à l'histoire d'Israël. Pendant 800 ans, Dieu a patienté envers son peuple, mais à la fin, il a été au-delà des limites. Il a été au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer dans l'idolâtrie et dans la désobéissance aux commandements de Dieu. Et Dieu les a jugés. Sa colère s'est abattue sur Jérusalem. Et il y a des livres entiers de la Bible qui sont consacrés à ce sujet-là. Le jour de la colère de Dieu arrivera suite à un débordement d'injustice et de mal parmi les hommes. Voici ce qu'on lit dans la deuxième épître de Pierre, comme illustration. Pardon. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Je suis au verset 9 du verset 3 de 2 Pierre. 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ce passage nous renseigne que nos actes seuls seront jugés. Dieu qui connaît nos pensées, dans sa bonté, ne jugera que nos actes. Nous ne serons pas jugés sur nos pensées. Et c'est important et c'est rassurant et il faut le savoir. Par contre, nous, lorsque nous jugeons autrui, nous faisons l'inverse. Nous ne connaissons que les actes, que les actions, et nous jugeons les pensées et les motivations auxquelles nous n'avons aucun accès. Dieu lui fait l'inverse. Reprenons la lecture de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 23. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais fruit porter de bons, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nos actes parlent de nous. C'est ce qui sort de notre cœur qui parle de nous. David Paulinson compare nos cœurs à des bouteilles pleines sans le bouchon. Et quand on est bousculé dans nos vies, ou quand on est renversé, la bouteille est secouée, la bouteille est renversée et il y a le liquide qui s'échappe. Et quel est le liquide qui s'échappe? Est-ce du parfum? Ou est-ce de l'absinthe ou du purin? Pour un homme, voilà comment cela peut se traduire concrètement. Une belle femme passe devant moi. Et qu'est-ce qui se passe? Comment je vais réagir? Porter un regard est un acte. Jésus dit qu'un regard de convoitise est un péché hautement punissable. C'est un exemple de la façon dont les sollicitations extérieures font ressortir ce qui est dans notre cœur et les actes et les œuvres se manifestent. Alors, est-ce que nous portons des fruits ou des épines? C'est la bonne question. Quels sont les fruits que nous portons? Quelles sont nos œuvres? Un deuxième enseignement de ce passage, c'est que les hommes ne seront pas présumés coupables. C'est très intéressant. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de démontrer que tous les hommes sont des pécheurs. C'est son objectif. Tout le monde sous l'empire du péché. Mais nous pouvons avoir la certitude que le jugement des hommes sera juste. Dieu n'a pas décrété à l'avance que tous les hommes sont coupables. Ce sont des actions objectives qui les rendront coupables. Vraiment, ce que nous avons fait qui nous rendra coupables. Peut-être à ce moment-là, vous vous dites, mais il y a tellement de gens qui font tellement de bonnes choses. On m'a cité le cas d'un homme qui semblait si altruiste, qu'il avait une association caritative en Afrique et vraiment il envoyait beaucoup d'argent là-bas. Mais également, lorsqu'il allait en voyage en Afrique, il en profitait au passage pour se livrer à la pédophilie. Nelson Mandela était un homme admiré et admirable, mais quand on regarde sa vie personnelle et familiale, cela ne donne pas du tout envie. Le texte dit, détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal. Pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité. Tout est question de nos motivations profondes. On peut être brillant dans un domaine et lamentable dans l'autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui recevront la vie éternelle suite à la persévérance dans le bien, recherchant la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité? Recherchant la gloire, une vie qui glorifie Dieu, l'honneur, une vie qui a du prix devant Dieu. Dieu a dit « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » 1 Samuel 2:30. L'immortalité. Enoch était un homme qui marchait avec Dieu et Dieu le prit. Et Dieu le prit avec lui. Oui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous cite une longue liste de personnes dans le cas de Enoch, une longue liste qu'on appelle les héros de la foi, des personnes qui ont eu la foi et dont la vie et les œuvres ont été agréées de Dieu. Leur point commun, avoir eu la foi dans le seul vrai Dieu et une foi qui agissait, qui se concrétisait en des actes. À l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Les hommes ne sont pas présumés coupables, les hommes seront coupables lors du jugement. Mais on voit qu'il y aura des exceptions, et il y en a eu dans le passé. Les personnes qui ont eu la foi dans le Dieu qui sauve. Dernière partie, maintenant. Chapitre 2, versets 11 à 16. Il n'y a pas de partialité chez Dieu. Tous ceux qui ont péché sans loi iront aussi à leur perte sans loi. Tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu. Ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi de Moïse font naturellement ce que prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou les défend tour à tour. Au jour où Dieu, selon ma bonne nouvelle, selon mon évangile, jugera les secrets des humains par Jésus-Christ. Dieu est impartial. Chacun sera jugé en fonction de la connaissance qu'il a de la volonté de Dieu. La question qui peut se poser, Dieu va-t-il déclarer coupable ceux qui ne connaissent pas sa volonté, ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus? Et la réponse ici de l'apôtre, tous les humains sont des personnes morales. Elles ont de façon innée une notion du bien et du mal. J'ai une anecdote ici pour illustrer cela. C'est ma sœur qui m'a raconté, quand elle avait reçu, c'est quand elle avait des enfants tout bébés, et elle avait une fille, et tout petit bébé comme ça, il y avait un ami de la famille qui était passé le voir, son mari et elle, et puis il regardait le bébé, et puis tout à coup le bébé, il est devenu tout rouge, rouge de pudeur, le tout petit bébé, toute petite fille. On grandit et inévitablement germe en nous la conscience du bien et du mal. Et ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas est écrit dans notre cœur et nous serons jugés là-dessus. Jésus dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé, ni fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'a pas connu la volonté de son maître et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Un grand piège pour nous chrétiens comme pour les juifs de l'époque serait de rester au stade de l'auditeur, de penser de toute façon je suis mieux que les gros pécheurs parce que je connais la volonté de Dieu. Ce n'est pas cela que Dieu regarde. Chacun est jugé en fonction de la connaissance que l'on a. Et plus la connaissance augmente, plus l'attente de Dieu est importante. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal. Pour le juif d'abord, puis aussi pour le grec. Ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, ce sont ceux qui mettent la loi en pratique qui seront justifiés. Il n'y a pas de partialité chez eux, chez Dieu. Tout ce qui est secret apparaîtra au grand jour, le dernier verset, verset 16. Selon l'évangile de Paul, Dieu jugera les secrets des humains par Jésus-Christ, des actions secrètes. Le mot ici pour secret, c'est cryptos en grec. Et on est dans un siècle où, par exemple, WhatsApp, donc si vous utilisez des messageries WhatsApp, les messages sont cryptés. Il est impossible à personne de savoir les communications que vous envoyez. Il y a un cryptage, c'est le même mot. Mais rien n'est crypté pour Dieu. Ni acte, ni motivation. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Jésus a dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être mis à la lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Jésus-Christ sera le juge impartial. Ce sera un homme qui a marché dans nos chaussures. Il a connu nos tentations et nos épreuves. C'est un homme qui nous va juger le monde et qui nous jugera. Un homme sans tâche, sans péché. Pour entrer à l'école de magistrature, il y a des prérequis de bonne moralité. N'importe qui ne peut pas être juge. Si vous vous présentez au concours et qu'il vous manque des points sur votre, que vous avez presque pas de points sur votre permis de conduire, on va vous dire oh non non, pas possible pour vous de devenir juge. À combien plus forte raison s'il y a des clauses de moralité pour devenir juge parmi les hommes, à combien plus forte raison les clauses de moralité sont importantes pour le juge qui va juger les hommes. Et Jésus est un homme comme cela, un homme sans défaut, qui n'a jamais péché, apte pour juger à nous le péché. Un homme sans tâche, qui a de l'amour pour les prévenus. Il a de l'amour pour les prévenus. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. Que la personne qui va juger le monde aime ces personnes-là et le jugement sera juste et en même temps il y aura une profonde affection pour cette personne-là. Je ne sais pas si l'un de vous a lu le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski. Il y a un personnage qui est comme ça, là, un juge d'instruction qui va poursuivre le jeune homme qui a ce double meurtre. Impitoyablement, il cherche la vérité et en même temps, il est rempli d'affection pour ce jeune homme criminel. Jésus-Christ sera le juge impartial qui va examiner le cas de chaque être humain qui est passé sur la terre. Alors, quelles conséquences pour nous ? Bien sûr, ne pas juger. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné. dit Jésus à Luc 6, 37. Ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors la louange de Dieu, la louange qui lui revient. 1 Corinthiens 4, 5, on avait vu ça l'année dernière. Ne pas juger. Laissons l'amour de Dieu nous conduire à la repentance. Vous savez, cette histoire du publicain et du pharisien qui allaient monter au temple, et le publicain se frappe la poitrine et il dit « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et sa prière est entendue et il ressort justifié. Le moteur de la repentance le plus puissant n'est pas la peur du jugement, mais la prise de conscience de l'amour de Dieu envers nous. Laissons l'amour de Dieu nous conduire à la repentance. Aspirons aux œuvres glorieuses, honorables, incorruptibles, je dirais inoxydables, aux yeux de Dieu. Aspirons à ces belles œuvres qui sont agréables à Dieu, qui lui plaisent à ses dieux, à lui, et non pas aux yeux des hommes. Et comprenons l'Évangile. C'est une autre application. Comprendre la perdition de l'humanité. Le jugement de Dieu sera juste, et la voie de conséquence, c'est que l'on comprend l'importance de l'évangélisation pour nous. L'importance de l'évangélisation. Voilà ce que j'ai noté. Il y a certainement d'autres choses, une foule d'autres choses qui peut-être vous viennent à l'esprit, qui pourraient être développées. Mais retenons cette mise en garde de ne pas juger, de renoncer vraiment à tout esprit de jugement. Et donc, on peut chanter maintenant le chant « Pardon d'avoir jugé » qui est sur nos recueils. Alors, c'est une prière. Ça va faire prière.